Gloire à Dieu. On continue notre petite étude sur la foi. Il y a encore des choses à voir. Il y a encore quelques messages à fouiller dans la parole de Dieu qui fait comme une continuité. Quand on va passer à travers, on va avoir survolé le sujet parce qu'il y a des centaines de choses qu'on aurait parlé, qu'on ne parlera pas. Mais on essaie de ramener ce qui est important de savoir parce qu'on est en train de bâtir dans notre cœur, dans notre esprit, la compréhension sur qu'est-ce qui est la vraie foi aux yeux de Dieu. Parce qu'on se fait des idées, on a besoin d'être éclairé. Des fois, on a des mauvaises conceptions qu'il faut rebâtir dans notre esprit. Puis les messages, ça sert à cela. Puis des fois, c'est comme on se regarde pour voir jusqu'à où est-ce qu'on est rendu, puis comment est-ce qu'on va, on peut se rendre. Puis là, on sait où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'il y a du travail à faire dans notre vie. Parce qu'on, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait atteint le maximum de la foi possible qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais on le vise. Qui avait le maximum de la foi sur la terre?
Jésus.
Jésus. Et à qui est-ce qu'il faut ressembler?
Jésus.
Fait qu'on a le modèle qui est là. Puis qu'est-ce que Jésus a dit de ses disciples? Jésus a dit que... Non, d'autres choses à propos de... Là, Jésus, c'est le top. Puis nous, on doit le viser pour être semblable. Mais il nous dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Puis à une autre place, il dit, vous ferez des œuvres encore plus grandes. Là, c'est encore plus, là. Parce que c'est lui qui est là, ressuscité, puis qui va le faire en nous. C'est ça que ça sous-entend. Il va faire des choses encore plus grandes. Jésus a travaillé dans son secteur. Nous, on est à l'autre bout de la planète. 2000 ans plus tard, on travaille dans notre secteur. Jésus ne l'avait pas atteint. Mais oui, il l'a atteint par d'autres chrétiens qui ont déjà travaillé. Mais on est là à la continuité des équipes qui étaient là avant nous. On continue notre travail. Puis quand on sera plus, bien, il y en a d'autres qui continuera. C'est ce qu'il faut croire. Sinon, l'Église va s'avoir éteinte. Je pense pas que c'est ça qui est le but. Dieu va atteindre tout le monde. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut que tout le monde soit sauvé. On a du travail à faire parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. C'est pas nous qui les convaincons, mais nous travaillons avec Dieu pour les amener. Puis ce qu'on fait comme activité pour les atteindre, l'évangélisation, le porte-à-porte, des pamphlets, etc., c'est... On continue à faire ce qu'on doit faire, puis le Seigneur va faire la différence. En continuant dans la lignée de la pensée de la foi, on va voir les conséquences du manque de foi ou de l'incrédulité. La semaine passée, on a vu des points sur l'incrédulité, puis on a vu comment est-ce qu'un chrétien doit répondre à cela. Quand que, mettons, s'il y a des doutes, il y a une incrédulité, s'il y a des doutes sur... Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Mais j'ai un verset qui était là. Dieu a promis qu'il pourvoira à tous nos besoins. Fait qu'il y a des, autant qu'on peut avoir des points négatifs d'incrédulité dans un chrétien, puis qu'il y a des versets pour nous renforcer notre foi, pour qu'on puisse gérer que l'incrédulité ou nos doutes soient étouffés. Mais aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est si quelqu'un persiste dans l'incrédulité et dans le doute, parce qu'il y a un manque de foi, y a-t-il des conséquences s'il meurt dans cet état-là? C'est important de le savoir, parce qu'il y a des versets qui parlent de ces choses. Là, si on regarde ça, mais là, pour nous, ça va nous aider à se tenir loin de cet état-là. On veut pas être incrédule, on veut pas être dans le doute quand Jésus va venir nous chercher. On va être rempli de la foi du Seigneur.
Amen!
Amen! Mais il y a des gens qui sont autour, qui ont de l'incrédulité, puis il y a des doutes, puis ils savent pas qu'est-ce qui va se produire dans leur vie. Puis si nous, on ne le sait pas non plus, mais on peut pas rien leur dire. Mais si on est équipé de la parole de Dieu, on est capable de répondre aux gens qui ont des doutes et de l'incrédulité autour. C'est-tu grave d'être incrédule, puis d'être dans les doutes, puis de pas marcher avec le Seigneur? Mais il y a des versets. La Bible parle que dans ce monde... Des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Je vous apprends rien. Il y a des gens qui croient en Dieu, puis qui croient en sa parole, ils croient en Jésus, ils croient au Saint-Esprit, à la nouvelle naissance. Ils l'ont reçu, ils se sont repentis, ils suivent le Seigneur. puis ils sont sauvés. Amen. Alléluia! Puis ils persévèrent dans la foi. Après l'avoir commencé, leur vie dans la foi, ils persévèrent dans la foi, puis ils vont se rendre jusqu'à la fin de leur vie à marcher dans la foi. Il y en a d'autres, c'est ils croient pas, puis ils veulent rien savoir, ou sont intéressés par d'autres religions. Ils veulent pas savoir ce que Dieu dit, ils veulent savoir faire leur religion selon leur goût, leur plaisir, leur attente, leur passion, leur manière de voir les choses. Ils refusent le message de l'Évangile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'a pas donné deux ou trois ou quatre manières d'être sauvé. Il n'a juste une. Mais si on accepte par la foi ce que Dieu a dit, puis on marche avec Dieu, on obtient toutes les promesses de Dieu. Mais si par rébellion ou par désintéressement ou par ignorance, on refuse ce que Dieu dit, y a-t-il des conséquences? Bonne question. Y a-t-il des conséquences pour les gens non-croyants? C'est pas nous qui inventons ces choses-là, elles sont toutes écrites textuellement, puis on va en voir quelques-unes. Premièrement, les personnes qui n'ont pas la foi se privent des miracles du Seigneur. Le Seigneur, il y a tellement de choses qu'il veut faire dans chacune des vies. Dieu, là, il n'est pas... mettons qu'il y aurait une certaine dose de capacité, puis que là, il en donne à chacun, mais qu'il n'est pas capable de fournir pour tout le monde. Non, non. Dieu est capable de manifester sa puissance dans tout le monde en même temps. Il en a assez de puissance pour être capable de sauver tout le monde. Il est capable de faire naître de nouveau tout le monde. Il est capable de pourvoir nourriture, vêtements, etc., est capable de pourvoir de ses provisions, de ses bénédictions, de ses richesses, de ses promesses, pour tout le monde.
Merci Seigneur.
Mais il y en a des gens qui ne le savent pas, puis qui ne croient pas, puis peuvent se priver des miracles. C'est ce qui s'est arrivé dans Matthieu 13, 54 à 58. Jésus s'est rendu dans sa patrie où ce qui a été élevé. Tout le monde le connaissait, ils l'ont vu bébé, ils l'ont porté. Tiens, c'est le petit Jésus, ça là, qu'on a porté, puis qu'il a joué dans nos rues, puis il faisait pas de mauvais coups, ça, au moins Jésus faisait pas de mauvais coups. Puis là, il enseignait dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'entendirent, ils étaient étonnés, puis ils disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? On connaît son père, c'était le charpentier. Il a bâti 7-8 maisons ici dans notre rue. Là. Tu sais, c'est de même que le monde pensait. Il connaissait son père, mais lui, jusqu'à ça devient qu'il soit si sage que ça, puis qu'il connaisse la parole de Dieu, puis qu'il se passe toutes sortes de miracles par ses mains. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Puis Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Fait que tout le monde t'a marié dans le village, dans sa famille, mais lui, où est-ce que ça vient qu'il soit si sage, puis qu'il soit avec tant de puissance dans sa vie, telle autorité, qu'il peut parler dans le nom de Dieu le Père, puis il chasse les démons, puis il guérit tous les malades? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ça, là, c'est là que le point qu'on veut regarder. Il était pour eux une occasion de chute. Parce qu'ils l'ont vu petit, ils pensaient, ça se peut pas qu'il soit de Dieu. Là, on l'a vu, il est né, son père et sa mère, on les connaît, puis il était là, puis d'où est-ce que ça vient? Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. C'est ce qui s'est produit, c'est un verset ça, qui était dans la parole de Dieu. Puis ça s'est accompli, là, il ne croyait pas en Jésus. Puis là, l'autre verset, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Même parmi les gens proches, ceux qui l'ont vu grandir, ceux qui auraient dû dire, « Wow, ce Jésus-là qu'on est habitué de voir, qui n'est pas comme les autres enfants, qui marche d'une manière sainte, qui n'a jamais fait une petite affaire de mal à un de ses proches, son prochain, parce que des enfants, là, ça joue ensemble, ça se fait du mal, mais lui, c'était un saint, sans reproche, sans péché, c'était un différent, c'était pas comme les autres, il aurait dû le remarquer, ils ont vécu dans le même village, c'était un petit village, là, à peu près comme Saint-Isidore, quelque chose de même. il est là, il a grandi, on le voit aller, il est... Non, plutôt, on dit, on connaît son père et sa mère, mais tu vois que leur relation avec les enfants n'était pas forte. Il n'y avait aucune connaissance comment cet enfant-là, il était différent. Qu'à 14 ans, il était dans le temple, il était capable de confondre les sages qui étaient là, les ceux qui connaissaient la parole de Dieu, il était capable de leur donner des réponses que tous ces savants-là de la Bible étaient surpris d'entendre ce jeune-là de 14 ans répondre des affaires de même. Lui, il était rempli de la connaissance de Dieu. Il n'a pas commencé à être rempli de la connaissance de Dieu à 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. À 14 ans, il savait déjà qu'il était appelé à une mission dans ce monde et était capable de répondre aux sages de cette époque-là. Mais les gens qui étaient incrédules le regardaient avec des yeux humains. Puis son père et sa mère, on les connaît. Lui, on ne le connaît pas puis on ne croit pas à ça. Puis Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans cet endroit-là. Fait que quand des gens marchent dans l'incrédulité, ils veulent pas croire, peu importe la raison pourquoi ils veulent pas croire, ils verront pas de miracle dans leur vie. Ils vont être privés de voir la puissance de Dieu. Jésus avait dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Fait que si tu crois pas, t'es privé de tout ce que Dieu peut faire. Ceux qui n'ont pas la foi ne recevront aucun bienfait des promesses de la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, 2, ça nous dit, cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, parce qu'il y a des gens qui l'ont entendu la bonne nouvelle, puis eux autres, les disciples, ils l'ont reçu la bonne nouvelle, ils ont cru, ils ont vécu plein de choses avec Dieu. Mais les autres qui l'ont reçu la bonne nouvelle, mais qui n'ont pas voulu adhérer, il dit, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Fait que quand quelqu'un entend la bonne nouvelle, mais qu'il n'a pas la foi, voyez-vous, quand tu n'as pas la foi, la bonne nouvelle, la parole, les promesses de Dieu, ça n'aura aucun effet. Tu ne pourras pas profiter de toutes les bénédictions de Dieu si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi. Il faut plus que de l'entendre, la parole. Il faut avoir une confiance qui naît. Tu crois, tu t'accroches au verset, puis tu confesses de ta bouche. Regardez bien ce que le Seigneur va faire. Là, tu donnes des versets. Tu peux répondre au diable pour le rejeter. Tu peux répondre à des gens pour démontrer ta foi ou pour partager ta foi. Mais tu vas confesser les versets. Tu y crois, tu le sais, puis tu vas l'en parler. Mais ceux qui ne croient pas, ça dit, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Fait qu'il y a des gens qui auraient dû vivre plein d'affaires avec le Seigneur, puisque la parole leur a été annoncée, mais à cause qu'ils ne croyaient pas, ils ont été privés de toutes les promesses de la parole de Dieu. Tout ce qui est là, que ce soit les promesses du salut, que ce soit les promesses que Dieu va pourvoir, les promesses que Dieu va te protéger, les promesses que Dieu... Il y a toutes ce qu'on a vu, quelques-unes la semaine passée, mais ça ne marchera pas. Ça ne s'accomplira pas dans la vie de cette personne-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'y croit pas. L'incrédulité nous empêche. À cause qu'on doute qu'on est incrédule, ça nous empêche de vivre les promesses de Dieu. Un autre point qu'on peut regarder dans un verset de la parole de Dieu, les personnes qui n'ont pas la foi ne recevront pas d'exaucement de prière. Parce que si tu t'approches de Dieu, il faut que tu crois que Dieu existe. Tu ne crois pas en Dieu, même si tu réciterais des prières, si tu n'y crois pas, tu t'entends. Parce qu'il y en a qui prient sans savoir que Dieu est là. Ils s'adressent à la lune, au soleil, aux arbres, aux nuages, aux oiseaux, n'importe quoi, là, un objet, une statue, ils ne savent pas à qui s'adresser, c'est par ignorance, ils ne savent pas. Mais même pour des chrétiens, c'est la même chose. Si on doute, on n'a pas la foi quand on prie, on n'obtiendra pas. C'est écrit dans Jacques 1, les versets 6 à 8. Quand on manque de foi, de sagesse, ça nous dit « demandez-la à Dieu ». J'ai manqué de sagesse, demandez-la à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Mais qu'il la demande avec foi. Faut que tu demandes les choses à Dieu avec foi. Faut que tu saches que Dieu est là. Là, tu as confiance que Dieu va t'entendre. Puis tu crois que Dieu est capable de te le donner. Puis tu crois qu'il va te le donner. C'est ça que c'est le même qu'un chrétien prie. Quelqu'un qui a la foi, il va prier comme ça. Tu sais qu'il t'entend, tu sais que tu vas l'obtenir. Tu manques de sagesse, demande-la avec foi. Ça nous dit qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ça, ça veut dire que tu peux, n'importe quel sujet de prière, si tu pries et tu n'as pas la foi que Dieu t'entend, que Dieu va le faire, ça ne marchera pas. Donc, l'incrédulité, à cause qu'on est incrédule, si on n'a pas la foi, là, l'incrédulité, c'est que tu ne crois pas. C'est ça que ça veut dire, incrédulité. Tu ne crois pas. T'as deux positions. Soit que tu y crois, ou soit que tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas exaucé. Ça, c'est aussi valable pour les chrétiens. Parce que Jacques, dans ce verset-là, s'adresse à des chrétiens. Fait qu'un incrédule, il a comme conséquence, il ne sera pas exaucé. Faut que, quand on explique ces choses-là aux gens du dehors, tu veux-tu que le Seigneur fasse de quoi? Si la personne dit, j'y crois pas, il ne se passera rien. Si elle croit que Dieu, puis là, ça a un petit doute, mais elle te demande de l'aide, prie pour moi. Là, c'est parce qu'elle veut, là, elle commence à croire qu'il peut se passer quelque chose, elle te le demande. Là, Dieu voit la foi de la personne. Combien de fois que c'est arrivé que c'est quelqu'un d'autre qui a demandé à Jésus pour quelqu'un d'autre. C'est pas, le monde ne demandait pas juste pour eux à Jésus. Il y en a qui allaient voir Jésus pour leurs enfants, pour le voisin ou pour quelqu'un de leurs amis. Ils ont présenté le paralytique, là. Il est à quatre qui ont ouvert le trou dans le plafond pour descendre. Il faisait cette action-là pour aider ce paralytique-là. Pour y aider, ça sous-entend qu'on peut aider quelqu'un qui cherche et qui veut de l'aide. Puis là, on va prier avec lui, mais on prie avec foi. Si on doute toute la gang, il ne se passera rien. Fait que ça nous aide aussi en un verset comme ça pour demander au Seigneur d'augmenter notre foi pour qu'on soit capable de présenter des prières avec foi pour nous-mêmes et pour les autres. Le manque de foi nous empêche d'expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Si on veut vraiment voir la puissance de Dieu dans notre vie, faut que Dieu augmente notre foi parce que, humainement parlant, on n'est pas en position pour recevoir quoi que ce soit. Mais à cause de Jésus, Jésus a tout payé pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés puis avoir une accès à se présenter devant le trône. Profitons-en pour prier avec foi quand on demande de quoi à notre Dieu parce qu'on le sait qu'on est entendu.
Amen.
On est entendu par Dieu, puis plusieurs reprises, Jésus a dit, « Tout ce que vous avez demandé en mon nom, vous le recevrez. » Pourquoi que Jésus a dit ça? Mais pour nous stimuler notre foi, pour nous booster dans notre foi, pour qu'on se dépêche à courir à Dieu, puis le demander avec foi. Jésus l'a dit, « Seigneur, tout ce que je vais te demander, je vais l'avoir. » Fait que ça booste ta foi. Puis, je le demande dans son nom, c'est lui qui me l'a dit de le demander. Tu sais, c'est Jésus qui a tout fait pour que je puisse le demander. C'est pas parce que je suis meilleur. À cause de Jésus, c'est le meilleur. Puis lui, il nous a dit, demande. Je le demande dans le nom de Jésus.
Amen.
Puis là, il nous le donne. Merci, Seigneur. Dans Matthieu 17, 19, ça nous dit. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus puis lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Ils voulaient vivre la puissance. Ils ont fait peut-être, dans le nom de Jésus, je te commande de t'en aller, puis ça n'a pas sorti. Le démon n'a pas sorti. Là, ils ont été voir Jésus après, puis ils ont demandé pourquoi il n'a pas sorti. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il n'a pas dit c'est à cause que le démon était trop puissant. Non, c'est à cause de vous qui n'avez pas assez de foi. Puis là, il leur répète que s'il y aurait la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, puis rien ne vous serait impossible. Jésus qui a dit ça. Rien ne serait impossible. Donc, on a le droit de penser qu'on peut atteindre une foi comme Jésus. Puis qu'il n'y a pas un démon qui va résister. Puis tout le monde va être guéri. Rentrons dans cette dimension-là si on veut voir la puissance de Dieu. Laissons pas notre incrédulité nous bloquer. Oui, c'est vrai qu'on a des doutes, qu'on a de l'incrédulité quand on présente des prières. Qu'est-ce qu'on doit répondre? Seigneur, pardonne-nous, viens au secours de notre incrédulité. Augmente notre foi. On veut être capable. Puis là, Jésus lui a dit, dans ce cas-là, mais dans un autre verset, il dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire, tu crois vraiment, là, tu vas croire, non seulement tu vas prier, mais tu vas jeûner aussi pour que ça sorte, puis ça va sortir. Amen.
Amen.
Une personne qui s'égare de la foi, quelles sont les conséquences? Parce que là, on parlait un peu de l'incrédulité, puis face aux promesses de Dieu. Mais une personne qui était déjà dans la foi, mais qui s'égare de la foi, qui devient crédule, y a-t-il des conséquences? Oui, il y en a, il y a des versets. Dans Jacques 5, 19, par exemple. Ça nous dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous, on parle d'un parmi vous, c'est un chrétien, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la foi, ça veut dire qu'il était chrétien, il était parmi les chrétiens, mais à un moment donné, il était dans la vérité, mais à un moment donné, il s'est égaré loin de la foi. Ça veut dire qu'il n'a plus la foi. Fait qu'un chrétien qui était chrétien, c'est parce qu'il avait eu la foi, il a été sauvé, il était parmi nous. Puis qu'à un moment donné, peu importe la raison, il défroque, puis il est rendu loin de la foi. Qu'est-ce qui arrive? Il dit, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène. Donc ça c'est super, parce que même si quelqu'un a abandonné le Seigneur, il y a une possibilité de revenir. Ça, je vais en reparler un peu plus la semaine prochaine. Mais si un autre le ramène, ça veut dire que il était égaré, puis que il avait besoin d'être ramené à la vérité. Mais qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Qu'est-ce qui arrive à un chrétien qui est sauvé, puis qui abandonne la foi, puis s'éloigne de la vérité? Qu'est-ce qui arrive?
Il peut mourir.
Il va mourir spirituellement, puis il va être plein de péchés dans sa vie, puis il est appelé, comment dans ce verset-là? Un pécheur. T'as beau avoir été sauvé, mais là, t'es plus sauvé, t'es rendu un pécheur. Puis un autre va te ramener. Ça veut dire quelqu'un qui a la foi... Aujourd'hui, faut qu'ils prennent garde d'être encore dans la foi demain, après-demain, tant et aussi longtemps que Jésus sera pas revenu. Sinon, il y a un risque de revenir comme qui était auparavant, perdu.
Puis il va redevenir
pire parce que là, il est 100% livré à Satan. Un disciple, parce qu'il y a des versets qui le disent aussi qu'il va devenir pire. Mais là, je ne voulais pas rentrer dans toute cette profondeur-là, mais je veux juste rester dans les titres. Un disciple du Seigneur qui abandonne la foi, ça, si on voit ça dans un autre passage, sera retranché du salut. Puis on voit ça dans Romains 11, le verset 19 à 22. Là, il parle qu'il y a un pied d'un arbre qui est un cep, qui est le pied d'une vigne. Puis que là, ça, c'est le pied de la vigne qui est Jésus, qui est le cep. Puis que nous, c'est des branches qu'on est mis après ce cep-là. Nous sommes des sarments. Des sarments, c'est des branches de la vigne. Ça, si t'es greffé, t'es sauvé. T'es avec le Seigneur. T'es alimenté par la sève qui est le Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Là, ça nous dit, parce que là, il est en train de parler des Juifs, qu'eux autres, originalement, ils étaient greffés à Jésus, à Dieu le Père, plutôt. Jésus t'a pas encore révélé. À cause de leur foi en Dieu, il y a des Juifs qui étaient sauvés et greffés, puis il y a des Juifs qui ont été retranchés de ce pied-là à cause de leur incrédulité. Puis là, ça va nous parler à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Lisons ce passage-là dans Romains 11, de 19 à 22. Or, tu diras, les branches qui ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Ça veut dire que il y a des gens qui se font enlever du pied, puis il y en a d'autres qui sont hantés, ça veut dire qu'ils sont connectés, branchés après le pied. Bon, ça veut dire que les Juifs qui étaient incrédules ont été enlevés, puis nous qui étions un païen, on a été hantés à cause de notre foi en Jésus. On est rendu connectés avec le pied qui est Jésus. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Ça veut dire, si tu es incrédule, tu crois pas, tu es enlevé. Et toi, tu subsistes par la foi. Nous, si on est connectés, c'est à cause de notre foi. Puis là, ça nous dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Parce que Dieu, il est bon. Mais Dieu est aussi sévère. Puis il n'en laissera pas passer. Tu as la foi, il te greffe. Tu es un incrédule, il te retranche. Il l'a fait avec des Juifs, il l'a fait avec des nous qui n'étaient pas... Il nous a hantés à cause de notre foi. On est connectés au salut. Regardez bien l'autre verset. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Amen. Ça veut dire que là, on est... Faut pas que tu penses que ça te monte dans l'orgueil. Tu dis, moi, je suis connecté, puis les Juifs ils ont été déconnectés. Non, faut pas se penser en orgueil comme ça. On mérite rien, puis c'est à cause de notre foi qu'on a été connecté. On voit là-dedans la bonté de Dieu de nous sauver à cause de notre foi, puis il nous a donné la vie éternelle. Mais faut pas que ça nous monte à la tête, puis qu'on se pense meilleur que les autres. Eux autres, ils ont été retranchés à cause qu'ils étaient incrédules. Mais nous, on était branchés à cause de notre foi. Mais là, ça nous dit, considère, fais attention, là. Il dit, toi, tu étais branché à cause que Dieu, il est bon. Puis si tu demeures ferme dans cette bonté, il faut que tu restes connecté à cela. Il faut que tu restes ferme dans la foi. Autrement, tu seras aussi retranché. Fait qu'il y en a des gens qui ont abandonné leur fermeté dans leur foi, sont devenus des incrédules, puis Dieu les a déconnectés, puis ils sont plus sauvés. Il n'y a pas juste un verset-là, il y en a d'autres qui en parlent de cette idée-là. Mais c'est quand même, je veux juste regarder un survol des conséquences du manque de foi ou de l'incrédulité. Les personnes qui n'ont pas la foi puis qui se révoltent contre Dieu n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Dans Hébreux 3, 16 à 19. Parce qu'il y a le peuple de Dieu, on prend l'exemple sur le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il avait été appelé par Dieu pour être le peuple de Dieu. Il était sauvé. Par la foi, c'est une promesse à Abraham, tu as une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. Ils ont été appelés, Moïse, il a été appelé à aller les chercher. Ils ont sorti d'Égypte, puis Dieu les amena dans la terre promise. Puis il y avait plein de bénédictions pour eux. Mais les gens se sont rebellés contre Dieu dans le désert. Puis ça nous sert d'exemple pour nous qui sommes chrétiens. Puis il faut faire attention. Puis il faut avertir les gens de la gravité de ces choses, qu'il y a un danger de devenir incrédule, de devenir rebelle à Dieu. On va aller lire Hébreux 3, versets 16 à 19. « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Voyez-vous, même s'ils ont été sortis de l'Égypte, même si Dieu était avec eux, puis Dieu leur ouvrait le chemin, puis a fait plein de miracles, il y a plein de gens qui se sont révoltés après l'avoir entendu, puis que leur cadavre est tombé dans le désert. Ils sont morts, frappés par Dieu, à cause d'un jugement de Dieu, à cause de leur rébellion et à cause qu'ils marchaient dans le péché. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voyez-vous dans ce passage-là, ça c'est un passage-là pour nous donner un exemple, à nous qui sommes chrétiens, de prendre garde de devenir incrédules, rebelles contre Dieu et de devenir pécheurs. De retourner dans notre ancienne vie, c'est ça que ça veut dire. On abandonne le Seigneur, on reste dans le péché, on trouve ça drôle, on trouve ça le fun, puis on a bien du plaisir. Mais il y a des conséquences pour ça. Si une personne perd la crainte de l'Éternel, puis elle commence à vivre en se laissant aller dans les péchés de ce monde, elle va perdre tout ce que Dieu avait préparé pour elle. La promesse est pour elle d'entrer dans le ciel, d'aller dans la vie éternelle. Jésus veut la donner, mais Jésus nous avertit par toutes sortes de passages qu'il y a un danger, que même après avoir reçu, qu'on peut devenir incrédule. On marche plus par la foi, on peut devenir rebelle, désobéissant, marcher dans le péché. Puis ça, ça va nous empêcher d'entrer, même si Jésus est mort sur la croix. Dieu ne laissera pas personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Seulement, mais il en a une liste de Paul, de ceux qui marchent selon la chair, impudicité, impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, les meurtres, l'envie, l'ivrognerie, les choses semblables. Et comme je vous l'ai dit auparavant, puis je l'ai répété, ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. On peut avoir une croyance, mais notre vie n'est pas conforme avec ce que Jésus demande. Puis ça va nous empêcher. Parce que les œuvres de la chair n'hériteront pas du royaume. Puis si on marche selon la chair, il va nous dire, c'est à cause que tu es un incrédule. Parce que tu aurais eu la foi, tu serais accroché à Dieu. Tu aurais persévéré avec Dieu. Tu aurais voulu t'en sortir. Tu aurais voulu que le Seigneur enlève ça de ta vie. Si tu as la foi, tu veux changer. Si ça te dérange pas, puis ça, même si tu te dis, si je rentre, je rentrerai, si je rentre pas, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Faut rentrer. On n'a pas l'option 2. L'option 2, t'es perdu pour l'éternité. L'étang ardent de feu et de soufre attend ceux qui se rebellent contre Dieu. Une personne qui abandonne la foi biblique pour mettre sa foi en autre chose est séduite et liée par des démons. Ça, on l'a déjà parlé dans l'enseignement des faux prophètes, mais on le répète parce que là, on abandonne la foi biblique. Donc, on devient un incrédule face à Dieu. On s'attache à d'autres choses pour de foi encore, mais pas les bonnes affaires. Dans 1 Timothée 4.1, que Paul explique ça à Timothée, ça nous dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est répété à plein de passages qu'il est possible d'abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs puis des doctrines de démons. Ça veut dire que tu peux être dans la foi aujourd'hui puis demain être tellement mêlé que tu as été mêlé par une séduction qui te fait croire autre chose pour être sauvé. Autre chose comme chemin à suivre. Autre chose que Jésus, puis tu vas te perdre. Ça dit, t'abandonnes la foi, ils vont abandonner la foi pour s'attacher. Quand t'es attaché, t'es lié. C'est ça que ça veut dire, attaché, c'est lié. Pour te lier à des esprits séducteurs, par ces esprits séducteurs-là qui te lient. T'es enchaîné par eux, puis tu les appartiens, puis tu suis leur doctrine de démon. T'es mêlé, tu veux plus la vérité. Il y a des gens que la Bible dit qui vont abandonner pour se tourner vers le mensonge. Un autre point qui est grave, encore pour l'incrédulité, pour le manque de foi, c'est une personne qui n'a pas la foi dans les écrits. Ce qui est déjà écrit, ce livre-là, qui est la Bible, c'est la parole de Dieu. Puis les gens, ils n'ont pas la foi que c'est la parole de Dieu. Puis on est en train aujourd'hui de semer cela sur Internet, que les gens parlent tellement contre la Bible et les erreurs que dans la Bible, ils veulent t'enlever la foi de ce qui est écrit. Puis ils veulent t'amener à croire, ben, fais-toi une idée, mais bon, suis plus à la Bible parce qu'il y a trop d'erreurs. C'est ça qui est l'idée en arrière. C'est dangereux, ce chemin-là. Parce que ça va nous empêcher de vouloir s'enraciner dans les paroles de Jésus. Puis dans l'Apocalypse, au chapitre 22, le verset 18 et 19, c'est que des personnes qui n'ont pas la foi dans les écrits, puis vont ajouter des affaires, puis vont retrancher des affaires du contenu de ce qui est écrit. Ça paraît pas grave. Oh, ben moi, la Bible, c'est démodé. C'est un petit... Là, il y en a qui, je l'ai entendu dans mes oreilles, dans une prêche. Faut pas que t'enfermes Dieu dans une petite boîte. Là, il a lancé sa Bible sur la table. Faut pas que t'enfermes Dieu dans une petite boîte. Ils ont jeté le Bible. Dieu est bien plus grand que tout ça. Ça, là, c'est un piège. C'est une séduction et un mensonge. La Bible, elle dit, va pas en dehors de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est déjà la révélation de Jésus et la révélation des apôtres. Reste là. C'est vrai qu'en traduit en français, il peut y avoir des petits mots ici et là, que c'est peut-être pas 100% le vrai sens pour une phrase, mais tout ce qui est nécessaire à comprendre pour être sauvé et marcher dans la sainteté et faire les œuvres de Dieu, c'est tout 100% clair, lisible, compréhensible par tout le monde. Il n'y a rien de difficile là, puis c'est très clair. Un mot de temps en temps sur un point de doctrine peut avoir une petite divergence, mais ça ne change en rien sur notre communion avec Dieu et notre marche dans la foi, selon basé sur les écrits. Puis le danger que quand on commence à dire « Ah, oh, ça, c'est pas bon », là, on arrache une page. « Ah, oh, ça, il aurait dû écrire ça », puis on commence à en rajouter. Fait que quand on commence à en enlever et à en rajouter, c'est là qu'il est écrit dans l'Apocalypse, Dieu s'il a mis ce verset-là, puis ça, c'est même pas Jean qui l'a écrit. C'est celui qui parlait à Jean qui a dit d'écrire ça. Décris ce que tu vas voir dans cette vision-là. Toute sa vision a duré longtemps, sa vision, parce qu'il a écrit 22 chapitres dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse, au chapitre 22, le verset 18 et 19, ça dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Fait qu'il y a deux choses. Soit quelqu'un en ajoute, il va être frappé de tout ce qui est fléau. Ça veut dire que tout ce qui est écrit là, ça veut dire que le gars ne participe pas à l'enlèvement. Ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Puis de l'autre point, s'il y en a, ça dit s'il en retranche, s'il en enlève, mais Dieu va y enlever sa part de l'arbre de la vie. Fait que tu ne seras pas là. Fait que d'un deux manières, tu ne seras pas sauvé. Ça veut dire que dans un chrétien, quelqu'un qui est vraiment sincère de marcher dans la foi pour Dieu, mais il va avoir la crainte de Dieu de ne pas jouer avec ce qui est écrit. Puis il va se dire, c'est écrit là, c'est ça. On ne prend pas la chance de penser que c'est pas bon, puis d'arracher la page. Voyez-vous l'idée? Un chrétien qui est ancré dans la parole, pour lui, Jésus dit, pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Jésus a parlé, puis sont écrites ces paroles. Si on veut s'approcher de Jésus, mais il faut désirer vouloir mettre en pratique ce qu'il a dit. Sinon, si moi je dis, c'est pas grave que Jésus a dit, c'est démodé, c'est passé date. C'est dans ce temps-là. Mais si on pense de même, on la mettra pas en pratique. Puis on va dire, c'est pas grave, on la lit pas. Puis on veut pas baser notre vie conforme à cela. Ça veut dire qu'on est en train de retrancher des fois le livre au complet parce que le livre ne nous intéresse plus. On garoche le livre. Parce qu'on l'a retranché, le livre. Dieu est bien plus grand que juste un livre. Mais quand on est rendu de même, on veut marcher à notre idée et non pas à l'idée de Dieu. Parce qu'il y a plein de versets qui nous ramènent tout le temps. Garde ce qui est écrit. Jésus, parce que, il y a un verset par exemple qui dit dans l'Apocalypse, parce que tu as gardé la foi en mon nom, tu n'as pas renié mon nom, puis tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure. Fait que l'idée, il y en a plein de versets. Tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes, mais garde ses commandements. Il y a d'autres versets qui disent ça. Tu veux plaire à Dieu, mais montre donc que tu l'aimes en obéissant. L'obéissance est très importante pour démontrer notre foi. Voyez-vous? Dieu connaît les cœurs, puis il voit quand on se refroidit, qu'on devient tiède, puis ou bien rendu froid. Rendu froid, c'est sûr qu'il n'y a plus rien à faire, mais quand tu es tiède, tu as déjà tu es à moitié chaud pour le Seigneur, puis à moitié froid. Tiède, là, c'est Dieu dit dans l'Apocalypse, les tièdes, il va les vomir de sa bouche. Il ne veut pas des tièdes, il veut des bouillants. Puisses-tu être froid ou bouillant? Nous autres, ce qu'on veut, c'est d'être bouillant pour le Seigneur. On veut garder sa parole, puis on veut persévérer, puis c'est de même qu'on marche dans la foi réelle. Voyez-vous? Un dernier verset. Le but de ces paroles, parce que là, c'est des paroles dures. Ce qu'on entend, c'est pas un boost de joie. J'ai pas entendu personne sauter de joie matin. C'est des paroles qui sont dures parce que c'est comme des paroles avec des menaces, des conséquences graves, c'est des grosses conditions comme c'est parce que le salut, c'est par la foi, mais c'est conditionnel. Le salut est conditionnel. Ça dépend si tu remplis les conditions. Une des conditions, c'est de la foi. La foi jusqu'à la fin, c'est une deuxième condition, persévérer dans la foi. Puis ta foi doit être démontrée par ta vie, dans ton attachement à la parole de Dieu. À pas de vouloir en rajouter ou m'enlever, voyez-vous. Il y a plein, c'est conditionnel. T'as une foi, c'est plus que juste une croyance. C'est de vouloir vivre la vie chrétienne. Vivre avec le Seigneur, vivre selon sa parole, voyez-vous. Le but de ces paroles venant de Dieu est pour faire prendre conscience à tous ceux qui pensent de vivre leur vie sans mettre leur foi en Dieu, en disant que c'est pas si grave que ça. T'sais? Dieu veut nous faire prendre conscience que si tu as à vivre la vie chrétienne, vis-la donc pleinement convaincu et conforme à ce qui est écrit, et non pas de penser, de prendre ça à la légère, pas grave cette page-là, pas grave, il n'y a rien de grave, pas grave le livre, pas grave, il n'y a rien de pas grave, on se retrouve à la fin, on rentre pas. Voyez-vous? 2 Pierre 3, 17, dernier verset. Vous donc, bien-aimés, vous qui êtes avertis. Êtes-vous des gens avertis?
Oui.
Mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Un impie, c'est un incroyant. Il dit, vous autres, vous êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur d'être entraînés par un impie, par un incroyant. Un chrétien, ça peut arriver qu'il se laisse entraîner. Puis là, s'il sent ça, là, wow, mais toi, c'est sur tes gardes, puis résiste à ça. Laisse-toi pas entraîner par les impies, par les gens qui croient pas. Écoute plutôt ceux qui croient. Laissez-vous pas entraîner par l'égarement des impies, puis que vous veniez à déchoir de votre fermeté. Quand tu déchois, t'es déchu. T'as slaqué dans ta vie, t'es plus ferme, t'es rendu ramolli, c'est plus grave. Fais attention que tu t'en ailles dans ce chemin-là au point que tu penses que c'est plus grave. Mais, plutôt, là, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Voyez-vous, il dit, au lieu de vous laisser aller puis de ramoller, pensez à avoir une croissance, à vouloir grandir dans le Seigneur, puis à vouloir grandir dans la grâce de Dieu, recevoir de plus en plus de ses bénédictions, de vouloir croître aussi, grandir dans la connaissance, comprendre la volonté de Dieu, puis de marcher d'une manière ferme, parce que c'est à lui qui soit la gloire, puis qu'un jour on va le retrouver, puis on va être avec lui, si on grandit, puis on reste ferme. Voyez-vous? Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole, puis tous ces avertissements qui sont écrits dans le but qu'on prenne garde de ne pas se laisser aller. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est de marcher d'une manière ferme, à demeurer dans la foi, une foi démontrée par nos œuvres, puis qu'on puisse être un exemple aussi pour les autres, un exemple de persévérance, un exemple de combattant, un exemple de quelqu'un qui remplit bien son ministère, puis qui produit beaucoup de fruits. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, pour nous garder dans cette fermeté en toi. On ne veut pas se laisser aller au doute et à l'incrédulité. On veut grandir dans la foi. Augmente notre foi, qu'on soit des hommes de foi inébranlables. Puis merci, Seigneur, de ce que tu vas faire au milieu de nous, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.